Alors, la dernière leçon était une leçon de type métaphysique qui reprenait, on pourrait dire, ce qui est le cœur d'ailleurs de la réflexion, enfin le principe de la réflexion du De Malo de saint Thomas d'Aquin, si vous connaissez cet ouvrage. En tout cas, c'est un des grands textes de Thomas, hein, son grand traité sur le mal, qui occupe d'ailleurs une place vraiment importante, hein, dans son œuvre. Et avec cet article qui affirme que le mal n'est pas quelque chose. Malum non est aliquid. Le mal n'est pas quelque chose. Cette affirmation, bien sûr, vient et, si vous voulez, le fruit mûr de toute une longue tradition qui l'a précédée. Et comme j'ai essayé de vous le montrer, c'était d'une certaine façon de montrer que l'être n'était pas neutre, vous voyez, moralement, qu'il est bon, qu'il y a une convertibilité du bien et de l'être. Et sachez que ce point de métaphysique est un point fondamental, si fondamental que Rémy Brague, lorsqu'il écrit il y a 3-4 ans, 5 ans, je ne sais plus, 3-4 ans, je pense, « Les encres dans le ciel », ou l'infrastructure métaphysique, tout l'enjeu du livre, c'est de dire, au fond, désormais, pour donner la vie, à partir du moment où il n'y a plus d'utopie progressiste, à partir du moment, surtout, où il n'y a plus d'utopie nataliste, parce que les dernières utopies progressistes que nous avons, ce sont des utopies technologistes qui sont précisément contre la naissance et pour la fabrication d'individus développés ou sophistiqués. Donc, à partir du moment où il n'y a plus ces utopies, puisqu'il y a eu des utopies natalistes, vous voyez, on faisait des enfants pour le parti, on faisait des enfants pour la nation, on faisait des enfants... Bon, à partir du moment où ça disparaît, on se retrouve face, de manière très très pure, à la question « Pourquoi donner la vie ?» Et la thèse de Rémy Brague, c'est de dire... Il y a donc désormais une question métaphysique majeure qui se pose qui se pose spécialement à l'Europe, parce que l'Europe a décidé, son histoire fait qu'elle n'est plus dans un contexte religieux, si vous voulez, d'espérance. Donc, au nom de la rationalité, sa raison est mise au défi de répondre à cette question. Pourquoi donner la vie? Et pourquoi donner la vie en dehors donc d'une réponse qui serait simplement religieuse? C'est pour ça qu'on est renvoyé à une métaphysique et à cette question de reconnaître que la vie en elle-même est bonne. De reconnaître que l'être en lui-même est bon. Et derrière cela, Rémy Brague aussi fait une critique des valeurs à travers une critique de la valorisation de l'être. Et donc en cela, il rejoint Nietzsche ou Heidegger. Vous voyez, qui pense que cette question des valeurs, ça suppose d'emblée que, vous voyez, valoriser la vie suppose que la vie n'a pas de valeur en elle-même. Valoriser l'être supposerait que l'être n'aurait pas de valeur en elle-même. Et dès lors, on se retrouverait avec des chrétiens, vous voyez, qui valorisent la vie de l'embryon, vous voyez, mais à partir de leurs valeurs, si vous voulez. Et de l'autre côté, d'autres qui valorisent la vie du top modèle, vous voyez, à partir de leurs valeurs. Et c'est pour ça que l'embryon handicapé ne mérite pas de vivre, parce qu'il ne peut pas être top modèle, etc. Des choses de ce genre. Donc, chacun va aller valeur contre valeur. Mais la question, c'est est-ce qu'il est bon d'être ? Est-ce qu'il est bon d'exister ? Et à ce moment-là, une fois que vous avez affirmé cela, vous voyez, on n'a pas montré qu'il était bon d'être parce que c'est tellement primitif que vous ne pouvez pas le démontrer. Vous comprenez ? Si c'est donné avec l'être, ce n'est pas une démonstration. Cependant, ce qu'on a pu montrer, c'est que le mal n'était pas de l'ordre de l'être. Vous voyez, c'est pas une démonstration. Disons que c'est par un raisonnement par l'absurde et où on montre que, voilà, ce n'est pas possible que l'être soit du mal. Et une fois qu'on a montré que le mal est de l'ordre de la privation, que ce soit de la privation en tant que mal subi, si vous voulez, dans l'acte premier d'être, simplement, physiquement, ou une privation dans l'acte commis, c'est-à-dire dans l'acte second, hein, qui est l'action humaine, donc là, ce serait le mal moral, hein, une action qui deviendrait déficiente, quand cette action est volontaire, je précise. Eh bien, dans ce cas-là, cela voudrait dire que le mal moral est à penser uniquement comme privation. Et dès lors, ça nous permet de fonder métaphysiquement, si vous voulez, la critique qu'on avait faite de toute une morale où il y avait des lois qui étaient des obligations, qui venaient de l'extérieur et qui s'imposaient à nous de l'extérieur, de telle sorte que nous étions contraints. Même chez Kant, il y avait ça, vous vous souvenez, hein, vous voyez, là, qui est contraint. Non, non, non. La loi morale est là, justement, pour libérer, on pourrait dire, les énergies profondes de l'être. C'est là pour conduire l'être à son plein déploiement. On l'a vu, une action bonne, c'est une action qui est davantage. Vous voyez ? Où il y a plus d'être. Où il y a plus de réalité. De telle sorte qu'une action mauvaise, moralement, c'est une action qui est déréalisante. Et c'est pour ça qu'on est obligé, on a été obligé aussi de corriger, au plan métaphysique, nos manières de dire. Parce que vous voyez, même faire le mal, mais est-ce que le mal fait quelque chose? Le mal défait. Vous comprenez? Il ne fait pas, il ne fait rien. On ne peut plus donner, vous voyez, à partir de ce qu'on vient de dire, une quelconque positivité du mal. Et donc nous sommes désormais, grâce... Si vous voulez, si vous avez réussi à entrer dans cette certitude métaphysique, je vous ai donné des pistes, après c'est à vous de le voir par vous-même. Hein. Il ne s'agit pas de vous incliner devant ma parole d'autorité, mais que vous puissiez vous-même suivre la démonstration et être capable de le penser par vous-même, de le voir par vous-même. Mais une fois que vous avez saisi ça, vous voyez, vous pouvez passer... Vous n'êtes plus sensible au chant des sirènes, voyez, vous pouvez passer à travers toutes les séductions, toutes les fascinations du mal... pour vous rendre compte qu'en réalité, derrière ça, il n'y a rien de positif. Oui. Il n'y va que de l'ordre d'une privation. Oui, c'est pour ça que vous pouvez comprendre que quand un pape, par exemple, comme je crois que c'était Benoît XVI qui disait à des jeunes, le Christ ne vous enlève rien, vous voyez, il vous donne tout, le Christ n'est pas là pour diminuer votre vie ou pour vous empêcher de, mais pour vous libérer, pour vous... Oui, mais ça, c'est à partir de cette affirmation métaphysique-là. D'accord ? Alors ça, c'est un point de départ fondamental qui vous permet de comprendre après ce qu'il en est justement du déploiement de la vie morale comme, vous voyez, fructification de l'être et donc de ce qu'est déjà la morale comme telle, telle qu'elle est entendue, la morale et la liberté telles qu'elles sont entendues, notamment dans la grande tradition de la philosophie de l'être, la grande tradition d'Aristote, de Platon, Aristote, Augustin, Thomas d'Aquin. Donc c'est ça que je voudrais maintenant un peu préciser à travers cette leçon qui porte sur la liberté et le bien. Donc, première remarque, déjà, de quel ordre, la première remarque qui correspond, enfin qu'il faut entendre à partir de ce qu'on vient de dire, de quel ordre est l'action morale? Vous savez que je vous l'avais déjà mentionné, hein, Aristote considère deux grands domaines d'opération humaine, le domaine spéculatif, qui est celui de la connaissance comme telle, vous souvenez, et puis le domaine pratique. Dans le domaine spéculatif, on connaît pour connaître. Dans le domaine pratique, on connaît pour... Pourquoi ? Alors, pour pratiquer, voilà. C'est bien, oui. Praxis, effectivement, c'est un terme qui renvoie à l'action, mais dans un sens très, très général. Cependant, Et ça vous explique pourquoi je fais ces deux cours. En fait, moi, je ne fais que des cours sur la philosophie pratique. Il y a deux domaines de la pratique chez Aristote, deux domaines très distincts. Le domaine de l'agir et le domaine du faire. Donc, il y a l'action et la faction. C'est comme ça qu'on dit en latin. Bon, maintenant, en français, faction, c'est devenu quelqu'un qui fait rien, justement. Quand on dit un agent et une police est en faction, c'est qu'il est là, il ne bouge pas, il ne fait rien, il est en faction. Normalement, il fait, parce que faction, ça veut dire ça. Donc, on vous dit qu'il est en faction parce que vous devez comprendre qu'il fait quelque chose alors qu'il ne fait rien. Enfin, vous le voyez rien faire, mais il fait quelque chose, il est en faction. Voilà, comme on dirait, il est en exercice. Et je suis en exercice, il ne fait rien, il ne fait pas d'exercice. Il ne fait pas des pompes et tout ça. Et donc, ces deux domaines sont l'un, l'agir, le domaine qu'on renvoie, qui correspond à l'éthique, à la morale, et le faire, qui correspond à la technique ou l'art. D'accord ? Sachant que les mots art et technique sont des mots synonymes pour les anciens, si vous voulez. Art vient traduire la techné des Grecs. Traduire en latin la techné des Grecs. Cependant, qu'est-ce qui distingue le domaine de l'agir et le domaine du faire pour Aristote? Est-ce que vous savez alors? Vous avez appris ça déjà ou pas? Oui? Exactement. Comment vous savez ça, Clément? Vous n'avez pas appris ça à l'école des mines? On l'a déjà dit, oui, voilà, c'est vrai. Je pense que je l'ai dit dans mon... Non, on en a parlé un peu aussi quand, à mon avis, au tout début de l'année, mais vous avez reçu tellement d'informations à la session d'anthropologie fondamentale que forcément, vous n'avez pas pu tout retenir. Quand j'ai parlé des opérations du vivant, je vous ai parlé comme d'opérations, justement, immanentes par rapport à des opérations transitives qui correspondent à du faire, voilà. Alors, justement, c'est très intéressant. Vous avez compris ce qu'il a dit. Alors, c'est quoi les termes qu'on doit employer? Je viens de les employer, d'ailleurs. Voilà. Le faire est de l'ordre d'une opération transitive. Comme son nom l'indique, hein, ça veut dire que l'action, enfin l'opération de l'agent transite et s'achève dans un objet, comme vous avez dit, extérieur. D'accord ? Comprenez ? Une matière. Alors que l'agir est de l'ordre de l'opération immanente qui vient de manérer, demeurer in, à l'intérieur, qui est une opération dont le terme est l'agent lui-même. Donc, si vous voulez, par le faire, on perfectionne quelque chose à l'extérieur, l'agent perfectionne quelque chose qui est extérieur à lui-même, alors que l'agir, par l'agir, l'agent se perfectionne lui-même. D'accord ? Vous comprenez ça ? Oui ? Ça vous va ? C'est pas très compliqué ? Manérer, demeurer, in à l'intérieur. Donc, vous avez deux types d'opérations. Alors, un petit exercice. Bon, quand vous faites de la sculpture, vous comprenez, c'est une opération transitive. Utilisez votre force, votre énergie, un ciseau, un burin, et puis vous êtes en train de transformer une matière extérieure. D'accord ? Quand vous faites du théâtre, c'est une opération transitive ou immanente? Vous voyez, c'est pas évident, hein, parce que quand l'art a pour matière, j'aurais pu prendre le chant, bien sûr, quand l'art a pour matière le corps lui-même, vous voyez? Donc la danse, le chant, le théâtre, etc. et pas une simple matière extérieure. Pourtant, c'est un art. Donc, ça devrait correspondre à une opération transitive. Vous comprenez ? Donc là, on a une difficulté. Vous voyez, il faut montrer qu'il y a des cas où notre manière de voir, quand on dit justement c'est dans une matière extérieure, là, ça ne marche pas tout à fait. Et en même temps, quand on dit c'est immanent, est-ce que c'est vraiment une opération immanente ? Dans quel sens elle est immanente ? Vous comprenez ? Donc là, il y a une petite difficulté qui va nous aider à penser ce dont il s'agit. Hein. Vous pouvez déjà faire la remarque que quand vous vous perfectionnez en théâtre, vous perfectionnez votre corps, ou quand vous perfectionnez en chant, vous vous perfectionnez vous-même, mais ce n'est pas vous-même en tant qu'homme. C'est-à-dire, quand je vous dis en tant qu'homme, ça veut dire en tant que vous vous rapprochez de la finalité ultime de l'humanité. Vous voyez, c'est ça. Vous vous perfectionnez vous-même par rapport à une finalité intermédiaire qui est justement d'être artiste. Vous voyez. La preuve que ce n'est pas la même chose, c'est que vous pourriez chanter faux et devenir saint. Vous comprenez, hein, c'est pas, si c'était la même chose, vous voyez, il faudrait absolument bien chanter ou vous perfectionner. C'est deux choses complètement différentes. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Saint Vincent de Paul dit une phrase du genre « Dieu aime mieux les aboiements du chien que les chants de la diva orgueilleuse. » C'est pas pour vous, Marion. Non. Mais non, mais c'est pour vous dire que de fait, vous voyez bien, il y a une différence entre se perfectionner en tant qu'homme, c'est-à-dire devenir plus humain, c'est-à-dire parvenir à sa finalité ultime et parvenir à ce qui est une finalité aussi hein, de l'homme, mais qui n'est pas la finalité humaine. Vous comprenez ? Alors, c'est... Pardon ? Non. Non, 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 j'en ai besoin. Et si je l'ai prise, c'est parce que j'en ai besoin. Je m'en sers bien. Ah, vous êtes généreuse, lui, il est absolument... D'accord. Vous voyez, lui, il est dans une... Il perfectionne sa feuille, il croit que c'est pour lui son intelligence, mais il s'éloigne de la finalité humaine qui est d'abord plutôt du côté de la générosité. Donc, juste une remarque, c'est très intéressant parce que vous devez reconnaître que même si c'est le corps, par exemple, dans le théâtre qui est mis en œuvre, il est précisément mis en œuvre. C'est-à-dire, ça reste le corps en tant qu'il est au service d'une œuvre. Vous voyez ? Par exemple, un comédien va devoir maîtriser ses passions. Vous êtes d'accord ? Une forme de maîtrise des passions dans l'art théâtral. Mais la maîtrise des passions dans l'art théâtral n'a rien à voir avec la maîtrise des passions dans la vie morale. Dans l'art théâtral, vous maîtrisez les passions en vue de pouvoir les exercer, voyez, pour l'œuvre théâtrale. Alors que dans la vie morale, vous maîtrisez les passions en vue de la charité. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ? C'est pour ça que vous voyez des personnes qui sont capables, sur scène, voyez, qui n'ont pas peur, qui peuvent à volonté verser des larmes, se retenir, etc. Et puis quand ces personnes descendent de scène, soit c'est justement des sortes de divas hyper susceptibles qui vivent tout le temps dans les larmes, dans le truc. Ouais. Ou alors c'est des gens qui théâtralisent souvent leurs propres relations humaines. Vous sentez qu'ils sont encore dans une sorte de maîtrise un peu artistique, théâtrale. Vous voyez ? C'est un des gros problèmes de nombreux acteurs. La maîtrise des passions, il y a maîtrise des passions dans les deux cas, mais ce n'est pas la même finalité. Donc vous voyez, même si c'est mon corps qui est en jeu dans le chant, dans la danse, dans le théâtre, c'est mon corps en tant qu'œuvre. Vous comprenez ? Donc faites attention, parce qu'on est dans un lieu justement où il pourrait y avoir une confusion, et d'ailleurs c'est une confusion fréquente dans les gens de théâtre, hein, où ils croient que justement ils travaillent sur eux-mêmes en tant qu'être humain, en tant qu'ils se développent, qu'ils se perfectionnent eux-mêmes, qu'ils se rapprochent, vous voyez, d'un truc. Mais c'est pas vrai. C'est d'ailleurs un des problèmes, c'est l'ambiguïté du clown que vous faites ici. Parce que le clown vous est présenté avec une dimension qui serait plutôt de l'ordre de l'opération immanente du type agir, découvrir la vulnérabilité, découvrir voilà, le truc, de telle sorte que vous devenez meilleur. Et en même temps, il y a un côté qui relève d'un certain savoir-faire malgré tout. Tenir sur scène, etc., il y a des choses qu'on apprend aussi. Je dis ça parce que vous pouvez faire 20 stages de clown et devenir un parfait enfoiré après. Hein. Non, mais je vous le dis, il ne faut pas non plus rêver. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont... Voilà, alors maintenant, sans doute que cette pratique a quelque chose qui réveille en nous, qui permet le déploiement, qui aide de manière dispositive à la vie morale, mais ça n'est que de l'ordre d'une causalité dispositive. Ce n'est pas de l'ordre de la causalité efficiente directe. Vous voyez ? Donc ça dispose, mais c'est pas non plus d'une, voilà, c'est pas ce qui vous rend meilleur en soi. Ce serait une erreur de croire ça, oui. Parce qu'il y a un aspect transitif malgré tout. Alors je reviens maintenant sur la question de l'opération immanente. C'est très intéressant parce que l'immanence caractérise les opérations de quoi en général chez Aristote ? De quoi ? De la vie. C'est très intéressant. Ça, il faut vous souvenir. Vous vous souvenez, toutes les opérations vitales sont des opérations immanentes. Quelles sont les trois opérations du vivant végétatif ? C'est nutrition, croissance et génération. La finalité, c'est la génération. D'accord ? Vous savez que, juste une remarque, hein, petite remarque pour vous rappeler, la finalité... Pour Aristote, hein, c'est la cause des causes. C'est-à-dire qu'en fait, la finalité, elle arrive souvent en dernier. Je suis obligé de vous faire des trucs, vous devez comprendre. Enfin bon. C'est du vocabulaire, hein, mais vous savez, quand vous maîtrisez ce vocabulaire, tout d'un coup, tout s'éclaire, tout devient très simple. Vous savez, on distingue l'ordre d'exécution et l'ordre d'intention. Et la règle, c'est que ce qui est premier dans l'ordre d'intention est dernier dans l'ordre d'exécution. Vous visez quelque chose, mais c'est cette chose qui va arriver à la fin dans l'exécution. Pourtant, elle est première dans l'intention. Vous comprenez ? Ce qui est dans votre intention, ce qui est dans votre esprit. Vous voyez, vous voulez faire une sculpture de la Vierge Marie, ça va venir au terme de votre opération, de l'exécution que vous allez faire sur le marbre ou sur la matière. Mais, vous voyez, c'était d'abord cette figure de la Vierge Marie que vous aviez dans l'esprit, d'accord ? Donc, la finalité, dans le temps, dans l'exécution, elle vient souvent à la fin, mais c'est elle qui est première dans l'intention, d'accord ? Par exemple, ma finalité, c'est de couper quelque chose, mais c'est parce que, vous voyez, je cherche à couper quelque chose que je vais fabriquer un couteau qui a d'ailleurs cette forme-là, c'est-à-dire une forme de lame avec aussi... pour que je puisse couper un manche qui ne soit pas lui-même la lame, sinon ça pose des problèmes, etc. Donc la forme du couteau, tout ce que je vais choisir, la matière, la forme, etc., va être ordonné à la finalité. Mais vous voyez, ce qui va me faire choisir la forme, la matière, la manière dont je vais les travailler, l'efficience, etc., c'est la finalité. D'accord ? C'est pour ça que la cause finale est cause des causes. Donc la finalité du vivant végétatif, hein, je tiens à préciser au niveau végétatif, c'est la reproduction ou la génération. À tel point que vous pouvez avoir des choses qui sont les vivants à la limite du vivant, qui pourraient n'avoir que la finalité. Vous voyez, vous pouvez pas avoir un vivant qui se nourrit et qui croit, mais qui ne génère pas. Parce que c'est quand même ça la finalité de l'ordre végétatif. Mais nous, on croit que c'est ça, les vivants. On croit que c'est des types qui se nourrissent et qui croissent. Parce que notre modèle, c'est des individus, vous savez. n'y a que il y a que l'homme moderne qui a cru que c'était ça le vivant, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau infra-végétatif. Ils pensent qu'ils sont là dans la vie pour se nourrir et pour croître. D'où la nécessité de la croissance illimitée. Oui. Mais non, le but c'est la maturité et la génération. C'est intéressant, hein? Si vous avez des choses assez mûres, vous voyez, même dans l'ordre, attention, hein, même dans l'ordre, parce que je vous ai parlé de la croissance, vous avez tout de suite pensé à l'ordre économique, l'ordre de la société, etc. Mais ça marche aussi pour la société. Si vous avez des choses assez mûres, vous voyez, qui peuvent plus progresser, qui sont bonnes en soi, qu'est-ce que vous faites? Vous les transmettez à l'autre génération. Vous voyez? Et ça marche là aussi, dans cet ordre-là. Et vous voyez, vous êtes dans une logique qui est celle de précisément de la tradition. D'accord? La tradition, ce n'est pas la conservation. Hein. Vous ne conservez pas tout, il faut que ce soit bon et mûr, vous voyez, pour transmettre. Ce n'est pas n'importe quoi. Chose mauvaise, on doit s'en débarrasser. Conservatisme, c'est dangereux. Vous voyez. La tradition, ce qui est bon, uniquement.
La génération, c'est une opération immanente ou transitive?
Alors, on va en parler. Elle est transitive. Alors, vous avez raison, elle est transitive par rapport à l'individu, mais elle est immanente par rapport à l'espèce. Vous comprenez? Voilà. Mais ce qui fait dire qu'au niveau maximal de la vie, elle est complètement immanente, c'est qu'en Dieu, la génération est complètement immanente. Oui, c'est vrai, le Fils n'est pas extérieur au Père. Oui. Non, c'est une remarque que fait Thomas. Mais je voudrais juste vous faire une remarque aussi, c'est que les opérations qui vont au-dessus des opérations sensitives, c'est la sensation par exemple. Vous vous souvenez, la sensation c'est de l'ordre de la connaissance, et là dans la connaissance, ça reste en nous. Vous voyez, nous allons concevoir quelque chose, oui, mais notre concept reste en nous-mêmes. Une génération qui serait purement intellectuelle, si vous voulez, imaginez qu'elle puisse produire une autre personne, elle serait entièrement immanente. D'accord? Bon, alors juste une petite parenthèse, mais vous avez des êtres donc, qui n'ont que les virus, par exemple. Les virus, ils se nourrissent pas, ils ne se nourrissent pas, ils ne croissent pas, mais ils se reproduisent. C'est une forme de vie. Et on sait très bien que le virus, c'est justement à la limite du vivant et du non-vivant. On pense même que c'est en fait une fragmentation génomique. On verrait d'ailleurs le virus comme privation, vous voyez, quelque chose qui devait s'insérer dans un génome, d'une certaine façon, qui était dans un génome, tout d'un coup se retrouve à marcher en solo dans une forme vraiment la plus basse de vie, c'est-à-dire où on se reproduit pour soi-même, enfin pour tout, mais sans même se nourrir, sans même croître, sans rien, quoi. C'est la pure prolifération. D'accord? Donc, vous vous souvenez, c'est des opérations immanentes, parce que, effectivement, il y a justement cet ordre où quand je me nourris, c'est pour ma subsistance. Quand je crois, c'est moi-même qui grandis. Quand je reproduis, alors c'est vrai que c'est l'espèce, vous voyez, dans la génération, même s'il y a quand même aussi une croissance de la part de celui, effectivement, qui engendre. Vous voyez, à la limite, vous pourriez dire devenir père, c'est aussi un perfectionnement. Donc il y a un aspect même réellement immanent, malgré tout, derrière cela. Et puis, de l'autre côté, vous avez bien sûr toutes les opérations qui sont de l'ordre de la sensation. Vous connaître quelque chose, c'est vous qui vous perfectionnez. Vous acquérez en vous la forme d'un autre être. C'est ça la connaissance, c'est accueillir en soi la forme d'un autre être. D'accord? Or, ce qui est très curieux, c'est que Aristote va définir l'agir moral comme une opération immanente, alors qu'il a défini les opérations vitales comme des opérations immanentes. Cela signifie que l'agir moral est justement ce qui déploie la vie humaine en tant que vie rationnelle, en tant que vie soumise à la libération, etc. On reste dans cet ordre qui est celui de la vie. Vous voyez, c'est rarement mentionné par les thomistes, hein, ça, c'est-à-dire de bien comprendre que quand Aristote définit l'agir moral, la prudence, comme opération immanente, il renvoie en fait à ce qu'on trouve déjà dans le plus petit des vivants, si vous voulez, mais qui chez l'homme, vous voyez, va se déployer spécialement moralement. Donc vous voyez, on est dans l'ordre du vivant. La morale, c'est le déploiement de la vie humaine. C'est le déploiement de la vitalité humaine. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire court sur Nietzsche avant, parce que Nietzsche a bien vu que c'était un des enjeux, vous voyez, cette grande santé qu'il voulait substituer au moralisme, etc., c'était au nom de la vie contre les valeurs. Mais s'il avait compris que la vraie morale ou la grande morale était précisément une morale de ce déploiement vital, vous voyez, il aurait pu voir qu'il avait plus d'alliés qu'il ne l'imaginait. Alors voilà ce que dit Aristote. Tandis que la production a une fin autre qu'elle-même. Alors, le mot qui est employé ici, hein, c'est le mot poiesis, production. Poiesis, qui donne poésie d'ailleurs. Tandis que la production, en effet, a une fin autre qu'elle-même, il n'en saurait être ainsi pour l'action, la bonne pratique étant elle-même sa propre fin. Et dès lors, vous voyez, ce qui est très curieux, c'est qu'on s'était trompé sur une certaine... Il y a toute une manière de penser la morale qui réduit la morale à quoi ? À un faire. À un faire. Être bon, c'est d'abord faire du bien. Et donc, ce serait simplement opérer sur une matière extérieure. Sauf que la matière extérieure, c'est autrui. Vous voyez, je dois faire du bien à Lydie. Je suis un être moral. Si je fais du mal, je suis moral. Et quand vous pensez comme ça, d'ailleurs, au final, la morale devient quoi ? Devient une morale qui concerne uniquement vos relations à autrui et pas votre relation à vous-même. À la fin, vous arrivez avec cette idée que être un homme moral, pour vous-même, par rapport à vous-même, vous faites ce que vous voulez, mais il s'agit de ne pas nuire aux autres. Vous voyez ? Mais là, vous avez confondu l'agir et le faire. Vous n'avez pas compris que c'était d'abord le propre déploiement de votre vie qui était en jeu. Que c'était d'abord une fructification et non pas une fabrication. Vous voyez, vous pouvez dire, alors vous allez me dire, mais c'est quand même un peu contre-intuitif ce que je suis en train de dire là. Parce que vous voyez quelqu'un qui est en train de crever de faim dans la rue. Vous allez faire quelque chose pour lui. Donc le faire, c'est quoi ? C'est... Vous allez prendre un paquet de riz, vous allez le cuire chez vous, vous allez lui préparer à manger, vous allez lui apporter à manger. D'accord ? Vous avez fait quelque chose. Vous êtes dans l'ordre du faire. Vous êtes d'accord ? En quoi y a-t-il un agir ? Alors, juste une remarque. Hein. S'il s'agissait que de cela, remarquez, hein, on pourrait imaginer un dispositif électronique qui repère les gens qui ont faim, et qui produisent de la nourriture qui leur apporte automatiquement. Vous avez remarqué. Hein. Bon, on serait uniquement dans l'ordre du faire. Le faire, à la limite, pourrait être complètement... c'est de la fabrication. Donc, vous voyez, on peut imaginer un dispositif technique qui le prend en charge. Mais et pourquoi est-ce que... Je vous le dis, c'est contre-intuitif quand même ce que je viens de vous dire là. Vous dites, d'accord, bon, fructification, d'accord, c'est très beau. Mais là, je vous pose cette question. Quelqu'un a faim dans la rue, en quoi vous seriez dans une opération immanente. Alors, dites-moi. Et c'est décisif, hein, si vous comprenez ça, c'est décisif, parce que vous allez enfin faire autre chose que d'aider les gens. C'est insupportable d'aider les gens. C'est insupportable. Hein ? On va vous aider. Au sens, je vais faire des choses, parce que vous voyez, je suis celui qui fait, toi tu es le réceptacle de mon faire. Parce qu'en fait, les gens deviennent justement comme des matières sur lesquelles vous œuvrez. Vous ne sortez pas du domaine technique finalement. Vous êtes vous le sujet qui œuvre, et en face, vous avez une matière qui œuvre, qui est œuvrée. Et la matière qui est œuvrée, c'est le pauvre, vous voyez. Vous comprenez, hein, cette confusion de l'agir. L'agir implique un faire. Je suis d'accord avec vous. Vous allez prendre le sac de riz, vous allez prendre le, vous allez faire la cuisine, vous allez apporter quelque chose à manger. L'agir va impliquer un faire. Le faire va être commandé par cet agir. Mais il faut voir qu'il y a un agir. Sinon, c'est une catastrophe. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'agir dans cette action-là ? Oui, Guillaume.
Parce qu'on se donne aussi soi-même.
Parce qu'on se donne soi-même.
On prend de son temps, on prend de ses ressources pour...
Quel narcissisme ! Vous voyez, ça, c'est le narcissisme catho. Le type, il est là, vous voyez, il est en train... Vous voyez, alors je lui donne la clé de ma voiture. Oui, non, mais justement... En plus, c'est la sienne. La vérité, c'est que c'est vrai que c'est la sienne. Quand vous donnez d'ailleurs quelque chose à un pauvre, vous ne faites que lui restituer ce qui lui appartient de droit. Hein. Vous ne vous donnez pas vous-même. Hein. Vous êtes juste de la justice. Donc, c'est un peu pareil, la situation. Voilà. Et là, je vois que je me donne. Vous voyez, je m'en fous. Moi, je me donne. Ah, je suis dans le don de moi. Attends, rends-moi les clés, là.
C'est le dernier exemplaire qu'on a perdu le double.
Ah oui ? Faut pas que j'aille... Bon, attends, pour l'instant, j'ai posé.
Prenez ce...
Avec les ciseaux, oui, ça marche moins bien. Vous comprenez, faut faire attention à ce genre de narcissisme parce que, c'était pas votre intention, hein, mais juste la rhétorique du don, vous voyez, ce truc du don, on se donne soi-même, il ne s'agit que de soi-même. Est-ce que c'est ça simplement le père ? Parce que ça va être un enjeu fondamental. Oui, Cécile.
Parce que
bon. Alors, essayez de faire des phrases sans reprendre des cantiques. Non, parce qu'en fait, juste une petite remarque, hein. Ce que vient de faire Cécile, peut-être Guillaume, un degré moindre quand même, mais Cécile, là, surtout, quand même, c'est l'équivalent d'une sorte de Google catho, sauf que elle a même pas, c'est même sans machine, vous voyez, c'est elle-même qui fait comme ça. C'est-à-dire, elle fait des associations d'idées, elle a entendu un truc, et puis elle reprend un fragment de cantique, voilà, aimer, c'est tout donner. Non, mais j'ai compris, Cécile, aussi. Que vous rigolez, bien sûr. Elle commence à avoir peur. D'autant que là, pour elle, j'ai été dans le dernier degré de l'insulte. Je l'ai comparé à Google, c'est terrible. Non, mais... Moi, j'en ai ras-le-bol de aimer, c'est tout donner. Hein. Non seulement parce que dans le monde suisse, on a eu ce petit livre, là, très, très sympathique, fait par notre ami Daniel Pittet, qui a été répandu partout, on a vu partout écrit « aimer, c'est tout donner ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ?« Aimer, c'est tout donner ». Vous voyez ? Vous allez donner votre corps à un pervers parce que vous l'aimez ? Vous allez donner quoi ? Aimer, d'ailleurs, juste moi, parce que je suis philosophe, j'ai toujours tendance à penser que aimer quelqu'un... Non, parce que vous comprenez, souvent on confond le niveau où c'est l'amour de Dieu. C'est vrai, si vous donnez tout à Dieu, de toute façon vous ne perdez rien, puisqu'il va vous... Enfin, forcément, c'est votre créateur, donc ça va revenir en... Vous voyez, puissance 10, plus, au centuple, c'est ce qui est dit. D'accord ? C'est au niveau de Dieu. Mais par rapport à la relation à autrui, je ne vais pas tout donner à Justine. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des trucs, et je ne vais pas du tout lui donner. Je dois lui donner ce qu'il lui faut à elle, en rapport avec ce que moi, je suis apte à lui donner. Vous voyez, cette mesure-là, faites très attention, hein, parce qu'il y a tout un discours où on transfère le rapport, l'amour infini de Dieu dans le rapport aux créatures, et on fait éclater les relations humaines. Et on est dans un truc illimité, et on tombe dans une sorte de romantisme catho insupportable. Soyons concrets, je peux donner d'abord que ce qui m'appartient. Remarquez, je vais vous prendre Saint-Martin, qu'on a fêté ce mois-ci, il donne que la moitié de son manteau. Il n'a pas tout donné. D'abord, c'est que son manteau, il n'a pas donné son slip, vous avez remarqué. Et puis, il a donné que la moitié. Pourquoi ? Parce que Voilà, parce que dans tout ce que possédait un soldat romain, la moitié appartenait à l'Empire. Donc il a donné que ce qu'il pouvait, que ce qui ne lui appartenait pas. Et il y a déjà des tas de choses par lesquelles vous ne vous appartenez plus, vous voyez. Vous ne pouvez pas donner comme ça. Et moi, je ne m'appartiens plus, j'ai une femme, j'ai des enfants, sous certains aspects, vous voyez, il y a des choses que je ne peux pas donner à certains parce que je le dois déjà à d'autres. Donc faites très attention déjà à ces discours. Je vous dis, faites très attention parce que vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit de vivre avec des slogans, vous voyez. Et puis vous n'avez pas le droit de confondre deux niveaux, vous voyez, deux ordres d'amour. Donc maintenant, je repose ma question. Pourquoi est-ce un agir? En quoi l'action, vous voyez, d'aller aider le pauvre en lui faisant la cuisine, en lui donnant à manger, pourquoi est-ce qu'il faut que ce ne soit pas simplement un faire, mais un agir? Procès. Alors, c'est sûr, parce qu'on est touché, on est poussé à agir. Mais quel est... Oui, mais... Vous voyez, bon, je m'identifie à sa souffrance. Enfin bon, c'est du dolorisme, ça, en fait. Ce serait sa souffrance elle-même qui me... C'est ça qui est intéressant, c'est sa souffrance. Quel est l'enjeu de ça, Paul ? Oui, enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est la première chose que vous avez dite. D'accord, d'accord. Au sens où lui, mais pour soi, la première chose que vous avez dite, c'est exactement ça. Vous voyez, là, voilà Paul qui parle comme un être sensé dans cette classe. Parce que l'enjeu de cet agir, ce qui vous perfectionne vraiment ici, vous-même, c'est que vous entrez en communion avec quelqu'un. Ce n'est pas simplement l'identification à sa souffrance, c'est la communion avec lui. Vous voyez, il faut faire attention à croire que ce n'est pas seulement la souffrance qui est en jeu. D'accord ? Ce n'est pas parce que je me donne, c'est presque parce que, plus encore, je dirais, je le reçois comme un autre à part entière. Vous voyez ? Et donc, ce qui s'est joué, un peu comme dans l'exemple que je vous avais pris pour la vieille dame, vous voyez, ce qui a manqué dans le vol du sac à main, c'est que je ne suis pas entré en relation, mais le perfectionnement, c'est ça. Et alors, c'est ça qui transforme complètement la modalité du faire. Parce que si le faire, ce n'est pas simplement le nourrir, comme je vais aller nourrir des oies, ou je vais aller, vous voyez, mais c'est d'abord cette communion, cette perfection humaine de l'être, de notre être social, qui se déploie, d'être avec quelqu'un, c'est ça qui me perfectionne, en fait. De m'ouvrir à quelqu'un d'autre, autant que je le peux. Vous voyez ? C'est ça qui est fondamental. Et si ce n'est pas ça, ben voilà, je suis toujours, en fait, à me délester de mon surplus, à faire, mais comme si le pauvre n'était pas une personne, mais était simplement le réceptacle de ma générosité, où je me regarde en train de faire l'aumône, et où je me suis payé ma bonne conscience devant Dieu, parce que j'ai été un être charitable, si vous voulez. Oui, Gaëlle.
Mais alors, la fin, ça ne devrait pas être justement cette réceptivité par le fait que si nous, on rentre en relation, alors on sera plus moral et on sera plus homme, mais ça doit être vraiment la relation en soi, parce que sinon, c'est utilitariste.
Exact. Non, c'est-à-dire que, attention, il y a des aspects d'utilité, il faut quand même... Mais ces aspects d'utilité sont secondaires, ils sont au service d'abord de cette relation, effectivement.
Donc, ce n'est pas d'abord, d'abord que le fait que nous, on aimerait être moral. Parce que sinon, dans ce cas-là, l'autre devient un moyen pour notre propre...
Ah oui, tout à fait. C'est parce que c'est le déploiement de notre vie. Mais, vous voyez, mais alors vous allez me dire, ah oui, ce que vous dites, c'est si c'est le déploiement de ma vie, à ce moment-là, c'est encore de l'égoïsme et l'autre devient un moyen pour le déploiement de ma vie, c'est ça ce que vous voulez dire ? Voilà. Voilà. Mais c'est la leçon d'après, parce que c'est une objection qui est intéressante. qui ne tient pas, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, vous voyez, on n'est même pas ici dans la division qui est déjà, qui est un autre problème hein, de la morale entre l'égoïsme et l'altruisme. Et on polarise tout en termes d'égoïsme et d'altruisme, mais ça n'a aucun sens. Si notre être est radicalement social, vous voyez, faire du bien à l'autre, c'est être soi-même et se faire du bien à soi. Mais ce n'est pas parce que je vise le bien que je me fais à moi-même que je fais du bien à l'autre, c'est parce que ça fait partie de ma nature. Vous comprenez? Donc on est au-delà de l'égoïsme et de l'altruisme. Vous comprenez? La manière radicale de cela, hein, c'est par exemple, la gloire de Dieu, c'est la gloire de l'homme. D'accord? Quand vous louez Dieu, c'est vous-même en fait qui aussi vous déployez pleinement dans votre être. Mais est-ce que vous louez Dieu en vous regardant vous-même pour le déploiement de votre être? Non, parce que vous êtes, c'est justement dans ce mouvement, et c'est ça le paradoxe, c'est que nous ne sommes jamais tant nous-mêmes et nous ne nous déployons jamais tant nous-mêmes qu'en étant tournés vers l'autre, qu'en étant dans cette communion à l'autre. C'est ce qu'on voit dans la Trinité, de manière absolue. Donc vous comprenez, le paradoxe, c'est en étant à l'autre, parce que je suis aussi par l'autre, en étant à l'autre, je suis moi-même. Maintenant, vous allez me dire, ah oui, mais est-ce que je suis à l'autre pour être moi-même? À ce moment-là, je l'instruis. Vous voyez, mais ces formules, vous voyez, vous comprenez, c'est parce qu'on est déjà dans une vision où il y aurait moi déjà constitué, l'autre complètement enfin, vous voyez, sans voir la nature profondément communautaire, en fait, de mon être. Vous comprenez, Gaël? Voilà. On va en parler juste après, normalement, si on a le temps. On va y arriver, merci. Merci, c'est une bonne remarque. Il me ramène sur le droit chemin.
Et du coup, le critère de l'action, c'est... Est-ce que c'est une opération immanente, parce que être en relation, ça relève de ma nature, ou c'est...
Parce que mon être est un être de politique, donc en fait, traduit en termes chrétiens, si vous voulez, ce serait un être de communion, voilà. Voilà. Quand on vous dit très naïvement, je dirais, pour prendre le truc de base, sans parler de dons, de machin, vous voyez, quand Saint Jean l'aumônier, ou repris par Saint Vincent de Paul d'ailleurs, dit « les pauvres sont nos seigneurs », et le fait de voir dans un pauvre le Christ, vous voyez, ce qui vous perfectionne, c'est que vous êtes tout d'un coup en relation avec le Christ, vous êtes fait pour ça. Mais ce n'est pas simplement que l'autre est un moyen, il est, vous voyez, vous êtes fait pour cette communion-là. Et alors, ça veut dire que quand vous allez aider quelqu'un, ce n'est pas le quelque chose qui vous intéresse, c'est le quelque chose pour quelqu'un et pour être avec quelqu'un. On va reprendre tout le schéma, il a faim, vous lui donnez à manger, mais l'échange plus profondément humain avec la nourriture que vous lui donnez, qui est nécessaire, qui est la base, c'est vrai. Mais après, autour de la table, c'est un repas. Vous voyez, un repas, ce n'est pas simplement une alimentation. C'est les paroles, l'entrée dans cette vie profondément sociale. Vous comprenez? C'est ça qui faisait dire à Baudelaire, à Saumon les pauvres. Vous vous souvenez? On avait parlé dans de ça. Non, jamais? J'en ai jamais parlé de Saumon les pauvres. Vous ne connaissez pas c'est un texte des petits poèmes en prose de Baudelaire que j'aime beaucoup, Baudelaire et ses poèmes en prose, et ce poème-là, et plus particulièrement Baudelaire, grand poète catholique, bien sûr. Non mais c'est vrai, c'est pas une blague, grand poète catholique, il le dit lui-même. La prière est pour lui la chose la plus fondamentale, d'ailleurs, il le dit dans ses livres, dans ses journaux intimes, etc. Et Baudelaire dit, dans Assommons les pauvres, parle de cette situation, il dit, où il parle de, l'arrière-plan, c'est les gens qui font l'aumône, vous savez, et qui partent. Vous voyez, donc ils sont... Et il dit que lui, quand il voit un pauvre, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il lui saute dessus, vous voyez, et il se bat avec lui. Et le pauvre, et vous voyez, et alors il avait une sorte de misérable, vous savez, qui était là, ce type était misérable, mais quand vous commencez à prendre, tout d'un coup, il retrouve une force incroyable, et à la fin, lui se fait éclater par le pauvre, par terre, et il est là, et il est content. Parce qu'il estime que là, il lui a rendu sa dignité. Vous voyez ? C'est ça le sens du texte. En réalité, c'est pourquoi ce texte est très important. Pourquoi est-ce que ce texte est plus décisif que tous les discours sur médiocres là, sur l'aumône, de trucs débiles. C'est parce que, vous voyez, l'idée, c'est que tout d'un coup, il a le corps à corps avec cette personne et que là, il vit un être avec. Là, on est dans un cas limite, vous voyez, où alors c'est carrément la baston, quoi. Mais, vous voyez, on est au même niveau, on est ensemble. Vous voyez ? Et c'est ça qui est le plus profond. Vous asseyez, vous parlez. Bien sûr, quelqu'un a faim, vous lui donnez à manger, c'est la première chose que vous faites. Vous faites ça avec un petit enfant. Mais votre petit enfant, quand vous lui donnez à manger, c'est pour vous émerveiller de son visage. Ce n'est pas simplement pour lui donner à manger. C'est la même chose. C'est la même chose. Si vous êtes un fils du Père, vous voyez les autres créatures aussi comme des enfants du Père, vous allez les nourrir, mais ce n'est pas pour les nourrir, c'est pour vous émerveiller de leur visage. Et c'est là, vous voyez, où c'est cette vie du Père qui se déploie en vous.